Revenez encore une fois à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jean, chapitre 3, versets 5 à 8. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Si l'on ne revient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit, quel en est le résultat ? Nous nous trouvons maintenant devant une question à laquelle nous devons faire face. C'est la question, si l'on ne revient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit, quel en est le résultat ? Ce n'est pas une déclaration destinée à condamner ou à menacer quelqu'un, mais une demande de faire face calmement à la conséquence spirituelle que la Bible montre déjà clairement. La caractéristique la plus marquante d'une foi qui ne revient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit réside en ceci, tout en disant que le problème du péché est fini, en réalité, il reste dans un état où il n'est pas fini. Ils confessent qu'ils croient en la croix, mais ils ne savent pas quand leurs péchés ont été transférés sur Jésus. Par conséquent, le moment du transfert des péchés devient flou, et la conscience accuse continuellement de péché. Le croyant obtient un moment de soulagement par la repentance, mais est bientôt capturé de nouveau par la culpabilité, et ne peut pas briser le cycle d'une vie qui répète encore la repentance. Un état où l'on ne peut jamais échapper à la question de savoir si l'on a reçu le salut continu, et c'est l'état d'une conscience non lavée dont parle la Bible. Dans un tel état, l'identité du croyant n'est pas non plus restaurée. L'évangile de l'eau et de l'esprit déclare clairement que le croyant est un juste, une nouvelle création et un enfant de Dieu. Cependant, si cet évangile manque, la foi s'endurcit dans la perception de soi d'être encore un pécheur. La pensée qu'il faut se repentir jusqu'à la mort et la résignation que le salut ne peut être connu en viennent à dominer le cœur. En conséquence, l'assurance des justes dont parle la Bible disparaît, et ce qui ressemble à de l'humilité, mais qui est en réalité un complexe d'infériorité spirituelle provenant du fait de ne pas croire pleinement à l'Évangile, prend sa place. Lorsque l'Évangile de l'eau et de l'Esprit disparaît, la nature de l'Évangile change également. À l'origine, cet Évangile est l'événement où les péchés du monde ont été réellement transférés lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, et est consécutivement lié à l'événement historique de la croix où ces péchés ont été réellement jugés. Cependant, si cette structure s'effondre, l'Évangile est réduit seulement au concept que Jésus est mort pour moi, et résumé dans la doctrine selon laquelle on est sauvé si l'on croit, et est remplacé par le langage de l'émotion, selon lequel le sentiment est la grâce. En conséquence, l'Évangile n'est plus une puissance, mais reste seulement comme le langage de la doctrine et du réconfort. Parallèlement à cela, la compréhension du rôle du Saint-Esprit s'affaiblit également. Le Saint-Esprit est celui qui témoigne du fait que Jésus est venu par l'eau et le sang. Cependant, dans un évangile où le baptême manque, le rôle du Saint-Esprit change, passant de témoin qui confirme le salut à un être qui crée des émotions, une atmosphère et des expériences. La foi en vient à dépendre de l'expérience plutôt que de la parole, et lorsque l'expérience disparaît, la foi est aussi ébranlée avec elle. C'est la raison pour laquelle de nombreux croyants aujourd'hui, tout en aspirant à la grâce, ressentent simultanément un vide spirituel profond. Lorsque l'Évangile est repoussé du centre, l'apparence de l'Église change aussi. Lorsque l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est au centre, l'Église est une communauté qui proclame l'Évangile, établit les justes et jouit de la liberté. Cependant, si cet Évangile est perdu, l'Église se transforme en une organisation qui gère des doctrines, exige des actions et tient les gens captifs avec des programmes. L'endroit où l'Évangile a disparu devient rempli à la place par la loi et la morale, le succès et l'expérience. Finalement, au terme de ce cheminement, nous nous trouvons devant l'avertissement dont parle la Bible. Cet avertissement n'est pas une condamnation émotionnelle, mais se réfère à l'état objectif auquel on fait face lorsque l'on ne croit pas à la structure de l'Évangile auquel Dieu a rendu témoignage. Même en professant croire à la croix, si l'on ne croit pas à la structure de l'eau et du sang à laquelle Dieu a rendu témoignage, ce n'est pas croire à l'Évangile entier dont parle la Bible. Pour résumer en une phrase, c'est comme suit, Si l'on ne revient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit, une personne, même en croyant en Jésus, vivra toute sa vie dans la conscience d'être un pécheur et, même en parlant de l'évangile, manquera d'expérimenter la puissance de l'évangile. Par conséquent, la conclusion de cette question ne doit pas finir dans l'auto-accusation ou la condamnation. Nous ne devons pas nous arrêter à déclarer que nous avions tort, nous devons revenir. Ce n'est pas une condamnation, mais une invitation. Nous devons revenir encore une fois à l'endroit où l'Église primitive a cru, au point où Jésus a réellement ôté les péchés, à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sept symptômes de foi qui apparaissent lorsque l'on ne revient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'état de foi qui apparaît lorsque l'on ne revient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit semble extérieurement comme si l'on menait une vie de foi, mais intérieurement, des symptômes spirituels clairs sont révélés. Ce n'est pas dans le but de condamner quelqu'un, mais c'est un diagnostic spirituel auquel il faut faire face afin de discerner pour soi-même et d'avancer vers la véritable restauration. La première caractéristique d'une foi qui n'est pas revenue à l'évangile de l'eau et de l'esprit est que, tout en parlant de l'effacement des péchés, la conscience n'arrête pas son accusation constante. Des lèvres, ils confessent avoir reçu la purification des péchés en croyant en Jésus, mais au fond de leur cœur, il n'y a pas de vraie paix à cause du péché. S'ils ne se repentent pas, ils deviennent anxieux, et même lorsqu'ils se repentent, ce n'est que pour un moment, après que le temps passe, la culpabilité remonte à nouveau de façon répétée. C'est un phénomène qui se produit parce qu'ils n'ont pas cru au moment où leurs péchés ont été transférés sur Jésus, et parce que leur conscience reste dans un état non lavé. Dans une telle foi, l'identité du croyant n'est jamais non plus restaurée ultimement. La Bible appelle le croyant injuste, une nouvelle créature, et le déclare enfant de Dieu. Cependant, une foi qui manque de l'évangile de l'eau et de l'esprit se définit toujours soi-même comme pécheur. Ils disent qu'il faut se repentir en tant que pécheur jusqu'à la mort, et ils interprètent à tort le fait de se dire juste comme de l'arrogance. Ce n'est pas de l'humilité, mais le résultat de ne croire qu'à la moitié de l'évangile, et c'est un état où l'on ne jouit pas de l'identité transformée que le salut apporte. En conséquence, le fruit de la repentance est aussi déformé. Dans l'Église primitive, la repentance était le fruit de la vie portée par celui qui était déjà sauvé. Cependant, si l'on ne revient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit, la repentance devient un acte répétitif dans le but de laver les péchés, elle devient une condition pour maintenir le salut, et elle dégénère en une habitude religieuse pour apaiser l'anxiété. La repentance n'est plus un passage menant à la liberté, mais devient un processus d'auto-examen et d'auto-condamnation sans fin. Aussi, la nature de l'évangile lui-même change. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile des événements historiques, l'événement du baptême au Jourdain, par lequel les péchés ont été réellement transférés, et le jugement qui a été réellement exécuté à la croix. Cependant, si cette structure disparaît, l'évangile demeure comme un concept abstrait selon lequel Jésus m'a aimé et que l'on est sauvé en croyant. En conséquence, l'évangile ne fonctionne plus comme la puissance qui règle le problème du péché, mais seulement comme un langage de compréhension et de réconfort. Avec cela, la compréhension du rôle du Saint-Esprit change aussi. Le rôle originel du Saint-Esprit est de témoigner du fait que Jésus est venu par l'eau et le sang, et de confirmer le salut qui est déjà accompli. Cependant, dans un évangile où l'eau est absente, le Saint-Esprit n'est pas perçu comme celui qui témoigne du salut, mais comme un être qui crée des émotions, des sentiments et une atmosphère. Par conséquent, s'il n'y a pas d'expérience, la foi est ébranlée, et à mesure que les expériences augmentent, la parole, au contraire, s'affaiblit. De ce fait, le critère de la foi se déplace progressivement de la parole vers les sentiments. Si l'on a reçu la grâce aujourd'hui, si le cœur est fervent, si l'on ressent quelque chose, ceux-ci deviennent les critères de la foi. Cependant, les émotions changent et les sentiments ne durent pas. Par conséquent, la foi ne peut pas être stable, et l'on finit dans un état d'errance, cherchant toujours de nouveaux stimuli et des expériences plus fortes. Si cette tendance continue, la forme de l'Église change aussi. Lorsque l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est central, l'Église est une communauté des justes qui ont reçu l'effacement de leurs péchés, et une communauté évangélique où la liberté et l'assurance sont vivantes. Cependant, si cet Évangile disparaît, l'Église se transforme en un système religieux qui gère le comportement, exige des normes et retient les gens avec des programmes. La place laissée vide par l'Évangile est remplie à la place par la loi et la morale, le succès et l'expérience. Pour résumer en une phrase, si l'on ne revient pas à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, on vivra toute sa vie avec une conscience de pécheur même en croyant en Jésus, et on ne pourra pas jouir de la puissance de l'Évangile même en en parlant. Par conséquent, revenir à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas une condamnation, mais une invitation. Ce n'est pas un appel à créer une nouvelle foi, mais un appel à revenir là où l'Église primitive croyait. Nous devons retourner encore à ce point où Jésus a réellement ôté les péchés, à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Là, vous trouverez la vraie liberté, l'assurance et une vie de foi restaurée. Les sept changements qui apparaissent lorsque ces sept symptômes sont guéris. Lorsqu'on revient à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la foi ne change pas simplement d'atmosphère, au contraire, les changements de la restauration se manifestent clairement. Les symptômes de la foi qui étaient révélés précédemment sont guéris un par un en revenant à la foi en l'Évangile, et ce changement n'est pas confirmé dans les fluctuations émotionnelles, mais à travers la vie, la conscience et l'identité de chacun. Premièrement, le changement le plus évident qui apparaît concerne l'état de la conscience. Lorsqu'on revient à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la culpabilité ne peut pas tenir le croyant captif de manière répétée. Lorsqu'on commet un péché, plutôt que de tomber immédiatement dans la condamnation, le cœur est protégé par le fait que ses péchés ont déjà été transférés sur Jésus. La repentance devient une confession de foi, libérée de la peur, et la conscience en vient à jouir de la vraie paix. Ce n'est pas un état où l'on se sent mieux émotionnellement, mais un changement où le fait que la conscience a été purifiée devient clair dans sa vie. Avec cela, l'identité du croyant demeure aussi ferme sans être ébranlée. On ne se définit plus comme un pécheur ni ne considère comme arrogant de s'appeler juste. On en vient à s'accepter comme juste, une nouvelle création, et un enfant de Dieu, tout comme la Bible le déclare. Ce n'est pas une attitude pour s'élever soi-même, mais une confession de foi qui croit au salut que Dieu a accompli, tel qu'il est. À mesure que l'identité devient plus claire, la foi devient hardie, et non repliée sur elle-même. La place de la repentance change aussi fondamentalement. Au sein de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la repentance n'est pas une condition pour obtenir le salut, mais devient le fruit de la vie de celui qui a déjà été purifié, vivant honnêtement devant Dieu. La repentance n'est pas un devoir lourd ou un acte répétitif pour apaiser l'anxiété, mais devient une expression de foi qui coule naturellement au sein de la relation. Par conséquent, après la repentance, ce qui reste dans le cœur n'est pas la condamnation, mais l'assurance. La compréhension de l'Évangile devient aussi claire et bien définie. L'Évangile n'est plus compris comme une doctrine abstraite ou un message émotionnel, mais comme un événement qui s'est réellement produit. L'événement du transfert au fleuve Jourdain, où les péchés ont été réellement transférés lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, le jugement du péché exécuté à la croix, et le cours du salut confirmé par le Saint-Esprit sont clairement établis comme un seul évangile. En conséquence, l'évangile devient une bénédiction qui peut être expliquée et prêchée, plutôt que quelque chose que l'on doit s'efforcer de ressentir comme vrai. La compréhension du Saint-Esprit est aussi correctement restaurée. Le Saint-Esprit est établi non comme un être pour créer des émotions, mais comme celui qui témoigne et confirme le salut déjà accompli. Par conséquent, la foi n'est pas ébranlée à cause d'un manque d'expérience, et même quand il y a une expérience, elle est placée sur la parole. La parole devient la norme, et l'expérience vient jouer un rôle supplémentaire, en restant à sa place. En conséquence, la norme de la foi passe clairement des sentiments à la parole. La mesure de la foi n'est plus de savoir si la grâce a été ressentie ou si le cœur s'est réchauffé. Au lieu de cela, ce dont la parole témoigne et ce que Dieu a accompli deviennent la norme de la foi. La foi ne repose pas sur les vagues de l'émotion, mais elle est bâtie sur le roc de la parole immuable. Toute cette restauration apporte aussi un changement à l'état de l'Église. Quand l'Évangile de l'eau et de l'Esprit devient le centre, l'Église est restaurée non comme une communauté qui gère des pécheurs, mais comme une communauté où les justes, qui ont reçu la purification des péchés, se tiennent ensemble. Plutôt que de surveiller les actions, elle édifie l'identité, et plutôt que le contrôle, la liberté et l'assurance sont laissées libres de couler. En résultat, L'Église se dresse de nouveau comme une Église qui prêche l'Évangile. Si tous ces changements sont résumés en une phrase, c'est celle-ci, lorsqu'on revient à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la foi est restaurée de l'anxiété à l'assurance, du devoir à la liberté, et de la conscience de pécheur à la hardiesse des justes. Par conséquent, revenir n'est pas une défaite. Revenir, c'est se tenir de nouveau dans le lieu de l'Évangile. Il faut revenir à cet endroit précis où Jésus a réellement ôté les péchés à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Là, la foi est ravivée, et la vie en vient à jouir de la vraie liberté. De nouveau, vers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le plus grand problème de l'Église et de la foi aujourd'hui ne réside pas dans le fait que les gens ne croient pas en Jésus. Il réside plutôt dans le fait que, bien qu'ils croient en Jésus, ils ne sont pas libérés du péché. De nombreux croyants parlent de la croix, confessent le salut et mènent leur vie de foi avec zèle, mais une question ineffaçable demeure au fond de leur cœur. C'est la question « Suis-je vraiment sans péché ?» la question « Pourquoi ma conscience n'est-elle pas complètement en paix ?» et l'interrogation « Pourquoi ma foi est-elle toujours anxieuse ?» Ces questions ne naissent pas d'une faiblesse personnelle, mais ce sont des questions qui ont émergé parce que la structure de l'Évangile n'a pas été pleinement transmise. L'Évangile que l'Église primitive prêchait ne parlait pas seulement de la croix de Jésus. Il prêchait conjointement l'événement qui a eu lieu avant la croix, c'est-à-dire l'événement effectif où Jésus a pris sur lui les péchés du monde par son baptême dans le fleuve Jourdain. Cependant, alors que l'Église traversait l'histoire, cet événement effectif du transfert du péché s'est progressivement obscurci, et finalement, l'Évangile a été réduit à une doctrine centrée sur la croix. En conséquence, le salut est devenu un concept, et non un événement, la foi est devenue un objet de gestion, et non une assurance, et le croyant est resté un croyant qui est toujours un pécheur, et non une personne juste. C'est la réalité dans laquelle se trouvent les membres de l'Église aujourd'hui. La restauration de la foi ne commence pas par un nouveau mouvement. La restauration commence lorsque nous revenons au lieu de l'Évangile perdu. La Bible témoigne clairement que Jésus-Christ est venu par l'eau, le sang et l'Esprit. Le baptême qu'il a reçu dans le fleuve Jourdain était l'événement du transfert du péché, le sang de la croix était le jugement de Dieu sur le péché transféré, et le Saint-Esprit est le témoin de Dieu qui atteste du salut déjà accompli. Lorsque cette structure est restaurée, la foi commence réellement à changer. Lorsque cet évangile est restauré, la conscience n'accuse plus constamment de péché. C'est parce que l'on vient à savoir clairement, par la foi, que les péchés sont déjà passés sur Jésus. L'identité du croyant est aussi restaurée avec cela. Au lieu de la confession d'être toujours un pécheur, on en vient à se tenir comme une personne juste, une nouvelle création et un enfant de Dieu, tout comme la Bible le déclare. La repentance change aussi. Elle n'est pas un acte répétitif pour obtenir l'effacement du péché, mais elle devient le fruit d'une vie vécue honnêtement devant Dieu par celui qui a déjà reçu l'effacement du péché. L'Évangile redevient un événement. Il est restauré non comme une explication ou une émotion, mais comme l'histoire du salut qui s'est réellement produite et a été réellement accomplie. À ce moment-là, le Saint-Esprit n'est pas un être qui crée des expériences, mais il est clairement établi comme celui qui confirme le salut sur la base de la parole. C'est le changement effectif qui se produit au sein de la foi lorsque l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est restauré. La conclusion que ce livre cherche à transmettre est simple. Il ne s'agit pas de créer un nouvel évangile, mais de retourner à cet évangile que l'Église primitive croyait et prêchait. Les gens n'ont pas nié la croix, mais ils n'ont pas suffisamment entendu parler du baptême de Jésus qui a précédé la croix. Les gens ont parlé du salut, mais ils ont vécu leur vie de foi sans savoir clairement quand et comment le péché a été transféré sur Jésus. Maintenant, Dieu ne condamne pas les gens, mais il les appelle simplement. Il leur dit de revenir à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Revenir n'est pas admettre un échec. Revenir, c'est se tenir de nouveau au point de départ de l'Évangile. C'est un appel à revenir à ce lieu où Jésus a réellement ôté les péchés du monde, le point du salut qui a commencé au fleuve Jourdain. Là, la foi n'est plus anxieuse, le salut ne vacille plus, et la vie ne se manifeste pas comme un devoir religieux mais comme le fruit de la gratitude et de la liberté. Il reste une question pour le lecteur qui lit ce livre maintenant. On doit s'examiner soi-même et demander, est-ce que je connaissais et croyais seulement à la croix, Ou est-ce que je connais et crois à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui inclut le baptême de Jésus? Dieu dit les mêmes paroles aujourd'hui. Il dit que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À celui qui revient à cet évangile, Dieu donne encore la vraie liberté, l'assurance et la vie. En quoi avons-nous cru? Nous avons cru en Jésus. Nous connaissions la croix, nous avons entendu l'évangile, et nous avons vécu longtemps au nom de la foi. Cependant, peu importe depuis combien de temps nous croyions, une question indélébile demeurait dans un coin de nos cœurs. Nous en venons à nous demander pourquoi le péché pèse encore sur nos cœurs, pourquoi notre conscience ne trouve pas un repos complet, et pourquoi l'anxiété est plus familière que l'assurance bien que nous croyions. Cette question n'est pas une question de faiblesse. Ce n'est pas un problème qui vient d'un manque de zèle. Au contraire, à un niveau plus profond, nous sommes confrontés à la question de savoir si nous n'avons pas continué notre foi tout en ayant perdu un point important de l'Évangile. L'Évangile que l'Église primitive prêchait n'était pas une simple doctrine. C'était un événement qui s'est réellement produit, et une histoire concrète où le péché de l'homme a été transféré sur l'agneau de Dieu. Il ne parlait pas seulement de la croix, il prêchait conjointement l'événement au fleuve Jourdain qui a précédé la croix. Cependant, au fil du temps, cet évangile s'est progressivement changé en une compréhension, l'événement est devenu un concept, et la foi s'est transformée en un objet à comprendre et à gérer, et non en une vie vivante. En conséquence, les gens, tout en croyant en Jésus, se définissent toujours comme des pécheurs, et tout en disant qu'ils sont sauvés, ils vivent sans obtenir de repos au plus profond de leur cœur. C'est la réalité dans laquelle se trouvent les croyants aujourd'hui, et c'est un diagnostic qui ne peut être ignoré. La Bible n'élève pas la voix, mais elle parle clairement. Jésus-Christ est venu par l'eau, le sang et l'esprit. Le baptême qu'il a reçu au fleuve Jourdain n'était pas un simple commencement. En ce lieu, le péché du monde a été transféré sur lui. La croix n'est pas un vague symbole d'amour, mais fut le lieu où la justice de Dieu a été réellement exécutée pour le péché transféré. Et le Saint-Esprit témoigne encore maintenant que toute cette œuvre est déjà finie et accomplie. Lorsque cette structure n'est pas vue, la foi suffoque, mais lorsque cette structure est revue, la foi commence enfin à respirer. Lorsque l'on voit de nouveau cet évangile, la conscience ne s'accuse plus sans fin. C'est parce que l'on sait clairement où le péché est passé. Cette seule phrase, « Mon péché a déjà été transféré sur Jésus », protège le cœur. Devant cette confession, la conscience se tait, et le cœur obtient enfin le repos. La raison de se cramponner à son état de pécheur disparaît, et l'on en vient prudemment à se tenir à la place que la Bible a déclarée, c'est-à-dire la place des justes. Ce n'est pas de l'assurance en soi-même, mais la foi qui accepte le salut tel que Dieu en a témoigné, juste tel qu'il est. La repentance change aussi. Elle ne devient pas une repentance qui jaillit de la terreur, mais une confession honnête qui découle d'une relation. On ne s'efforce plus soi-même pour obtenir l'effacement du péché, mais on en vient à se tenir devant Dieu comme quelqu'un dont les péchés ont déjà été ôtés. L'Évangile est restauré non comme une parole qui ne peut être crue que lorsqu'elle est ressentie à nouveau, mais comme une parole de salut qui peut être proclamée avec audace parce qu'elle est déjà accomplie. À ce moment-là, la foi ne se tient pas sur les vagues de l'émotion, mais en vient à se fonder sur l'événement accompli. La conclusion que cet écrit entend transmettre n'est pas complexe. Il ne s'agit pas de trouver un nouveau chemin, ni d'exiger une expérience plus profonde. Il s'agit simplement de revenir. C'est revenir à ce lieu où l'Église primitive croyait, à ce point où Jésus a réellement pris sur lui le péché du monde. Nous croyons aussi à la croix. Cependant, nous avons peut-être continué notre vie de foi sans avoir suffisamment entendu ou compris l'événement au fleuve Jourdain qui a précédé la croix. Si cela est vrai, l'anxiété et l'ébranlement actuels ne sont pas une coïncidence. Revenir n'est pas un acte de négation de la foi que l'on a eue jusqu'à présent. C'est plutôt l'œuvre de cette foi qui trouve enfin sa juste place. C'est entrer à nouveau dans le courant de cet évangile qui a commencé au fleuve Jourdain, a été accompli à la croix, et est attesté par le Saint-Esprit. En ce lieu, la foi n'est plus pesante, le salut n'est plus anxieux, et la vie commence à s'écouler non comme un devoir mais avec gratitude. Autrement, Rester là tout en ignorant cet appel est de l'ignorance, et cela revient à choisir d'être soi-même un pécheur devant l'évidence de l'Évangile. Après avoir lu ce texte, une question demeure pour le lecteur. C'est la question : quelle part de l'Évangile ai-je cru jusqu'à présent ? On en viendra à se demander si c'était seulement la croix, ou si c'était le baptême et la croix, ce qui inclut le baptême de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur parle encore maintenant, doucement mais résolument. Il nous appelle à revenir. Il nous dit de revenir à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En ce lieu, il y a le vrai repos, une assurance inébranlable et la vie. Maintenant, le choix de rester simplement là où l'on était jusqu'à présent, ou de revenir, est posé devant chaque personne. Si l'on ne retourne pas à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que reste-t-il ? La Bible n'a jamais fait des mots même « je crois en Jésus » le critère du salut. Le problème n'est pas la présence ou l'absence de foi, mais le contenu de la foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent croire à la croix. Cependant, ils ne prêtent pas vraiment attention à la méthode de salut dont Dieu lui-même a témoigné. Jésus-Christ est venu par l'eau, le sang et l'esprit, pourtant les gens s'en tiennent seulement au sang et, ignorant ce dont l'eau témoigne, disent qu'ils sont en sécurité. C'est l'état contre lequel la Bible met le plus en garde. Une foi qui parle de la croix tout en niant le baptême de Jésus est une foi qui a réduit l'Évangile, et c'est une foi qui a rabaissé la structure du salut, dont Dieu a témoigné, au niveau de la compréhension humaine. En conséquence, une personne, même en croyant en Jésus, en vient à vivre sa vie entière en tant que pécheur. Ce n'est pas de l'humilité, mais un autre nom pour l'incrédulité. Une conscience non lavée finit par se tromper elle-même. La Bible dit que si le péché était vraiment résolu, il n'y aurait plus aucune conscience des péchés. Cependant, la foi d'aujourd'hui est, au contraire, plus consciente du péché. La raison est claire. C'est parce qu'ils ne savent pas où leurs péchés sont réellement allés. Une foi sans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pousse constamment une personne à se replier sur elle-même. S'ils ne se repentent pas, ils deviennent anxieux, même s'ils se repentent, la culpabilité revient et le salut semble toujours conditionnel. Si cet état perdure longtemps, une personne finit par s'habituer aux accusations de sa propre conscience et devient insensible au témoignage de Dieu. C'est le point le plus effrayant. La conscience ne peut pas sauver une personne, mais beaucoup vivent en confondant les accusations de leur conscience avec l'œuvre du Saint-Esprit. Une église qui a perdu l'Évangile devient finalement une religion. Là où l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a disparu, d'autres choses entrent. La loi et la morale, le succès et les expériences, la dévotion et les programmes remplissent ce lieu. L'église peut grandir et ses activités peuvent augmenter, mais l'Évangile est progressivement repoussé du centre. À ce stade, l'Église ne devient pas une communauté de justes qui ont reçu l'effacement des péchés, mais un système religieux qui gère les comportements. Les gens en viennent à apprendre des normes au lieu de la liberté, la peur au lieu de l'assurance, et des méthodes au lieu de l'Évangile. Ce n'est pas un phénomène accidentel, mais un résultat inévitable qui apparaît lorsque l'Évangile de l'eau et de l'Esprit disparaît. La chose la plus dangereuse n'est pas l'incrédulité. C'est l'état de croire incorrectement tout en étant convaincu de croire correctement. On ne nie pas Jésus, mais on ne croit pas à la méthode de salut dont Dieu a témoigné. C'est la foi partielle dont parle la Bible, et c'est une foi qui conduit finalement une personne à la destruction. Jésus a dit que ce ne sont pas tous ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Cet avertissement ne s'adressait pas aux autres religions, mais à ceux qui avaient du zèle religieux. Cependant, ce n'est pas encore la fin. Cet avertissement n'est pas une condamnation, mais une invitation finale. Dieu appelle encore les gens maintenant. Il dit de revenir non pas à la compréhension humaine, mais au témoignage de Dieu. Il les appelle à revenir à cet évangile, le salut qui a commencé au fleuve Jourdain, le jugement qui a été accompli sur la croix, confirmé par le Saint-Esprit. Si l'on ne revient pas, une personne, même en croyant en Jésus, ne peut jamais être libre. Mais si l'on revient, la conscience se tait, et la justice de Dieu vient régner dans le cœur. Maintenant, il ne reste qu'une seule question. On en vient à se demander si l'on rejettera l'Évangile de l'eau et de l'Esprit jusqu'à la fin, ou si l'on reviendra dès maintenant. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est maintenant ce jour même. Pour ceux qui rejettent l'évangile de l'eau et de l'esprit, il ne reste que le jugement. Cette question ne peut plus être dissimulée en la qualifiant de différence de point de vue théologique. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une question de choix. C'est la norme de Dieu qui détermine si une personne parvient au salut ou à la destruction. La Bible ne place pas cette question dans le domaine du choix, mais la proclame comme une question de vie ou de mort. Dieu a témoigné de Jésus-Christ avec l'eau, le sang et l'esprit, et ce témoignage n'est pas quelque chose qui peut être divisé et faire l'objet d'un choix. Au moment où même l'un d'entre eux est supprimé, cela ne devient pas la foi, mais la désobéissance au témoignage de Dieu. Les gens disent qu'ils croient à la croix. Mais la Bible pose la question, qu'est-ce que cette croix a jugé? Si les péchés n'ont pas été transférés, le jugement ne peut pas être établi. S'il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'expiation. Si Jésus n'avait pas été baptisé dans le fleuve Jourdain, la croix devient une mort vaine qui n'a porté aucun péché. Alors, en quel genre d'évangile une foi qui s'accroche à la croix sans le baptême croit-elle vraiment? Ce n'est pas l'évangile dont témoigne la Bible, mais simplement une croyance religieuse créée par l'homme. La Bible déclare clairement l'état de celui en qui le péché demeure. Elle dit que celui qui ne croit pas en lui est déjà sous le jugement. Ce jugement n'est pas un événement qui survient soudainement au dernier jour, mais un état qui a déjà commencé. Une foi qui a rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit porte inévitablement ses fruits. Le sentiment de culpabilité ne disparaît pas, la conscience accuse constamment, et l'assurance du salut n'est finalement pas donnée. Ce n'est pas une formation, mais la preuve que le péché demeure encore en cette personne. Le Saint-Esprit ne témoigne pas de la paix en celui en qui le péché demeure. La parole ne parle plus de ce sujet de manière indirecte. 1er Épître de Jean, chapitre 5, verset 10, déclare « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, face à cette parole, aucune excuse n'est permise. » Si quelqu'un dit croire à la croix tout en niant le baptême de Jésus et en rejetant le témoignage de Dieu selon lequel il est venu par l'eau, cette personne, sans même le savoir, se retrouve à faire du témoignage de Dieu un mensonge. Ce n'est pas une simple erreur théologique, mais une grave offense spirituelle. Le zèle religieux ne peut accorder d'exemption face à ce jugement. Beaucoup de gens se jugent en sécurité en se basant sur leur parcours religieux. Ils se justifient par des raisons telles que le fait d'avoir fréquenté l'Église pendant longtemps, d'avoir occupé une position et d'avoir beaucoup servi. Mais Jésus a parlé clairement à de telles personnes. La réponse donnée à ceux qui prétendaient avoir accompli de nombreuses œuvres au nom du Seigneur ne fut pas un réconfort, mais une déclaration. C'était cette parole, « Je ne vous connais pas ». La raison en est qu'ils n'ont pas suivi le chemin du salut que Dieu a établi, mais un chemin de foi qu'ils ont créé eux-mêmes. Maintenant, la conclusion est claire. Une foi qui a rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut jamais parvenir au salut, peu importe combien elle utilise le nom de Jésus. C'est une foi sans lumière, un évangile avec le sang mais sans l'eau, et une religion qui ne peut recevoir le témoignage du Saint-Esprit. La Bible appelle une telle foi un autre évangile et la place clairement sous la malédiction. Cependant, la porte n'est pas encore fermée. Cette parole n'est pas une déclaration pour vous placer sous le jugement, mais l'avertissement ultime de Dieu pour donner une dernière chance de repentance. Dieu parle encore maintenant. Il vous appelle à revenir. Il dit de revenir avant la croix, de revenir au fleuve Jourdain, et de revenir à cet endroit même où les péchés ont été réellement transférés sur Jésus. Au moment où l'on croit à cet évangile, le jugement prend fin et la justice est proclamée. Mais si l'on rejette cet appel maintenant, une telle personne, tout en disant croire en Jésus, marchera toujours vers le jugement au milieu du péché. Enfin, la Bible parle clairement. Elle déclare que maintenant est le temps favorable de la grâce, et que maintenant est le jour du salut. C'est ce moment précis. Le jugement de Dieu sur ceux qui ont abandonné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur dit, comme dans Jérémie, chapitre 5, verset 21, « Ils ont des yeux et ne voient point, Ils ont des oreilles et n'entendent point. Vous invoquez mon nom, mais vous avez rejeté le chemin du salut que j'ai établi, vous parlez de la croix, mais vous avez écarté l'eau dont j'ai témoigné. C'est pourquoi le Seigneur demande, « Qui vous a donné le droit de retrancher le témoignage de Dieu ?» L'évangile dont Dieu a témoigné est un, et Dieu a rendu témoignage de son Fils par l'eau, le sang et l'esprit, et il n'a pas séparé leur témoignage. Mais les hommes ont créé un sang sans eau, un salut sans l'esprit, et une doctrine sans l'événement. Ce n'est pas l'évangile que Dieu a transmis, mais un autre évangile fabriqué par l'homme. Celui qui a effacé le fleuve Jourdain a aussi perdu la croix. La raison pour laquelle le Fils de Dieu est allé au fleuve Jourdain et a reçu le baptême n'était pas pour montrer son humilité. En ce lieu, les péchés du monde ont été transférés sur lui. Au moment où les gens nient cet événement, ils en viennent, sans le savoir, à nier aussi la puissance de la croix. Si les péchés ne lui avaient pas été transférés, le jugement n'aurait pas pu avoir lieu. S'il n'y a pas de transfert de péché, l'expiation n'existe pas. Les gens disent s'accrocher à la croix, mais en réalité, ils s'accrochent à un arbre qui n'a jugé aucun péché. Le Seigneur dit, « Vous parlez en mon nom, en disant « Seigneur ». Seigneur, vous œuvrez en mon nom et vous vous assemblez en mon nom, mais vous n'avez pas cru au salut dont j'ai témoigné. C'est pourquoi, en ce jour-là, le Seigneur dira, « Je ne vous connais pas ». Une foi sans preuve est déjà sous le jugement. L'anxiété et la culpabilité incessante que les gens ressentent ne sont pas une épreuve. C'est la preuve que le péché demeure encore à l'intérieur du cœur de cette personne. Dieu ne donne pas la crainte à celui qui est sans péché, et il ne reste pas silencieux envers les justes. Une paix dont l'Esprit de Dieu ne témoigne pas n'est pas la vraie paix. L'Église a perdu sa lampe. Les programmes abondent, mais l'Évangile ne coule pas, les gens se rassemblent, mais les justes ne sont pas établis. Tel est l'état de l'Église qui a perdu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur parle, et déclare que si vous ne vous repentez pas, il ôtera votre chandelier de sa place. Ce n'est pas une menace, mais un jugement. C'est une déclaration annonçant le jugement de Dieu qui a déjà été prononcé. Une foi qui a rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit, peu importe son ancienneté, son zèle ou son succès apparent, ne peut parvenir au salut. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais le jugement de la Bible. Néanmoins, la porte n'a pas encore été fermée. Il y a une raison pour laquelle Dieu parle aujourd'hui, c'est un appel au retour. Le Seigneur nous dit de retourner au fleuve Jourdain. Il nous dit de retourner à l'endroit même où le péché a été réellement transféré. Il nous dit de retourner au point de départ du salut que Dieu a établi. À celui qui revient, Dieu ne pose pas de questions sur le passé. Mais de la part de celui qui ne revient pas, il n'accepte aucune excuse. Aujourd'hui, Dieu dit, « Choisissez l'évangile de l'eau et de l'esprit, et vous vivrez. » Mais s'il rejette encore le témoignage de Dieu aujourd'hui, cette personne marchera vers la destruction tout en invoquant le nom de Jésus. Dieu a averti, a témoigné et a laissé la porte ouverte. Maintenant, le choix appartient à l'homme. La porte du salut n'est pas encore fermée. La raison pour laquelle cette parole est proclamée aujourd'hui n'est pas pour rejeter les gens, mais pour les faire revenir. Dieu n'est pas celui qui se réjouit de la mort du méchant, ni celui qui prend plaisir à la destruction. Dieu est celui qui attend jusqu'à la toute fin que nous revenions. Dieu nous appelle à revenir. Cet appel n'est pas de retourner aux années de foi que vous avez bâties jusqu'à présent. Ce n'est pas non plus un appel à retourner à votre position ou à votre lieu de dévotion. C'est un appel à retourner au commencement. C'est une invitation à retourner avant que les doctrines des hommes ne commencent, avant que la théologie ne soit structurée, à cet endroit même, au fleuve Jourdain, où le péché a été réellement transféré. En ce lieu, il n'y a pas de parole, mais un événement, pas de compréhension intellectuelle, mais le transfert du péché, et pas d'effort, mais un salut qui est déjà accompli. Les gens se sont attardés au pied de la croix pendant longtemps. Cependant, ils n'ont pas vu le lieu où le Fils de Dieu s'est tenu en premier, avant de venir à la croix. Ce lieu même est le fleuve Jourdain. Là, tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus en une seule fois. À ce moment-là, les cieux se sont ouverts, et Dieu avait déjà parlé, déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette joie n'était pas quelque chose qui a surgi après la croix, mais une joie qui a commencé dès le moment même où le péché a été transféré. À celui qui revient, Dieu ne pose pas de questions. Il ne demande pas « Pourquoi es-tu venu seulement maintenant ?» Il ne demande pas « Pourquoi as-tu résisté si longtemps ?» et il ne demande pas « Pourquoi as-tu cru de manière si incorrecte ?» La seule chose que Dieu demande est la question de savoir si vous allez maintenant croire à son témoignage. Il demande si vous allez maintenant croire pleinement au Fils, le Fils qui est venu par l'eau, le Fils qui a été jugé par le sang, et le Fils à qui l'Esprit rend témoignage. Si vous revenez, la conscience n'accusera plus la personne. Dieu lui-même la fera taire. Si vous revenez, vous ne servirez plus Dieu depuis la position d'un pécheur. Dieu ne cherche pas un serviteur, mais vous appelle en tant que fils. Si vous revenez, la repentance ne sera pas un acte venant de la peur, mais un langage qui découle d'une relation, et la foi ne sera pas le poids du maintien, mais un lieu de repos. Cependant, Dieu parle clairement. Il avertit que si vous ne revenez pas aujourd'hui, demain deviendra plus lourd, et si vous entendez et laissez passer cela aujourd'hui, vous pourriez ne pas entendre cette voix la prochaine fois. Dieu est patient, mais il n'attend pas indéfiniment. La porte est ouverte, mais elle n'est pas ouverte pour toujours. C'est pourquoi il dit de revenir maintenant. Quand votre cœur est encore touché, quand cette parole est encore inconfortable, quand vous ne pouvez pas encore vous résoudre à haïr la vérité, c'est le moment même de revenir. Enfin, Dieu parle encore. Il demande sur lequel des deux chemins vous vous tenez, c'est un appel pour celui qui est sur l'autre chemin à se détourner et à revenir maintenant. L'un est le chemin d'un autre évangile fait par l'homme, et l'autre est le chemin de l'évangile de l'eau et de l'esprit, auquel Dieu a rendu témoignage. Le premier paraît confortable, mais sa fin est la destruction, le second paraît étroit, mais sa fin est la vie. C'est pourquoi il vous appelle à revenir. Il vous dit de retourner au fleuve Jourdain. Il vous invite à retourner à cet endroit où le péché a pris fin, à cet endroit où le jugement est déjà terminé. Là, une personne parviendra enfin à connaître le salut. Même maintenant, Dieu parle. Il vous appelle à revenir. Et il attend, espérant que cet appel ne sera pas le dernier pour une personne.